les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour Sylvie Barnet.
Bonjour Hélène Renard.
Le 25 novembre, tout le monde le sait, c'est la Sainte Catherine, mais il n'y a pas une Catherine, mais vous en avez découvert beaucoup dans l'histoire des saintes. Alors on commence par laquelle ?
Par la plus célèbre peut-être, Catherine d'Alexandrie. Vous la reconnaissez facilement, elle porte dans la peinture une roue avec des scies et des clous de fer qui rappellent les instruments de son supplice lors de la passion qu'elle subit. Alors, il faut peut-être un petit peu que je parle.
Oui, dites-nous, pourquoi on l'a mise à la passion ?
Alors, l'histoire raconte, et elle va être popularisée par la légende dorée de Jacques de Voragine au XIIIe siècle, l'histoire raconte que Catherine était la fille du roi Costus et qu'un jour, l'empereur Maxence vint au palais admirant son éloquence et sa sagesse. Et à ce moment-là, il décide de la confronter au plus grand sage du royaume pour démontrer l'inanité de la religion chrétienne. À ce moment-là, Catherine, bien sûr, forte en sagesse, se confronte au grand du royaume, mais refuse d'épouser le roi. Et c'est le début de tous ses malheurs, parce que, furieux de cet échec, double à la fois son mariage avec Catherine et le fait qu'il s'agit pour l'empereur, dans un monde païen, de démontrer l'inanité du christianisme, nous sommes au IIIe siècle, eh bien l'empereur la fait enfermer dans la prison. Mais là, il y a un miracle, elle reçoit la visite des anges qui lui apportent une nourriture venue du ciel. Et après divers rebondissements, eh bien l'empereur décide de la faire décapiter, de la mettre au supplice. Dans un premier temps, quatre roues entourées de scies de fer et de clous très pointus sont chargées de la déchirer. Mais les vies des saints mettent en scène toutes ces scènes qui nous paraissent extrêmement morbides aujourd'hui, uniquement dans le but de nous démontrer que le saint, à l'inverse de l'idole, c'est celui qui finit toujours par se reconstituer. Son corps finit toujours par être recréé dans l'unité jusqu'à sa mort, qui pour les esprits de ce temps est présenté et vécu comme une naissance au ciel. Il n'y a donc absolument rien de morbide, mais quelque chose qui nous transmet le sens de la vie tel qu'il est pensé par le christianisme, parce qu'il s'agit pour les saints de ressusciter. Et donc Catherine de Sienne va ressusciter.
Donc on fait souffrir le corps avec des tortures horribles pour montrer qu'après il sera d'autant plus glorieux. Au fond, c'est une façon à l'envers de montrer les choses, non ?
Et en plus, la vie de Jacques de Voragine raconte comment, au moment de sa mort, eh bien, il y a du lait qui jaillit de son corps décapité, et ce lait, il sert à guérir les malades. C'est du reste la raison pour laquelle, ultérieurement, eh bien, on fera de Sainte Catherine également la patronne des laitiers. Mais dans un premier temps, elle est plutôt la patronne des chartiers, des charrons, de tous ceux qui fabriquent des roues.
Des roues, donc des automobilistes peut-être.
Non, c'est Saint-Christophe.
Ah non, c'est Saint-Christophe. Bon, enfin, des fabricants d'automobiles qui fabriquent les roues. En tout cas, Jacques de Voragine, comment a-t-il eu justement ces informations, à votre avis ? Il les a véritablement eu par la légende orale ou est-ce qu'il les a un peu enjolivés ?
Alors,
les deux peut-être ?
Jacques de Voragine, c'est quelqu'un qui recopie le matériel qui existe et ce matériel existant, ce sont surtout des récits destinés à raconter comment le saint est quelqu'un qui fait l'expérience de la passion du Christ. Et donc, il va tout simplement recopier ses devanciers. Mais le propre de la légende, au Moyen-Âge, cela signifie ce qui doit être lu au moment de la liturgie. Le propre de la légende, c'est de transmettre un véritable matériel symbolique qui est de nous raconter comment la vie des saints nous parle de la vie, nous parle comment l'homme avance vers davantage de vie chaque jour jusqu'à la vie promise au ciel lors de la résurrection.
Alors si on respecte l'ordre chronologique, avec Catherine d'Alexandrie, nous étions donc, vous l'avez dit, au IIIe siècle. Alors quelle est l'autre Catherine que vous allez maintenant nous présenter, à quel siècle a-t-elle vécu ?
Alors, cette fois-ci, nous allons au XIVe siècle et nous rencontrons Sainte Catherine de Sienne, qui n'est pas célébrée le 25 novembre, mais le 29 avril, jour de sa naissance au ciel. Alors, pour la petite histoire, rappelons que les Catherinettes, ce sont les jeunes filles qui, à 25 ans, ne sont pas encore mariées et qui portent la coiffe de Sainte Catherine d'Alexandrie, tout simplement en rappel de la couronne que porte chaque martyr, c'est-à-dire chaque saint qui fait l'expérience de la passion du Christ, et donc les Catherinettes, elles portent cette coiffe, symbole de leur virginité et symbole également de leur avancement vers la vie céleste. Mais c'est un joli rappel à travers le temps.
Une coiffe symbolique.
Et Sainte Catherine de Sienne, elle, elle va porter également un vêtement extrêmement symbolique. Ça ne sera pas une coiffe, mais les images représentent Sainte Catherine comme une femme religieuse, mais en fait, c'est une laïque. C'est une laïque habillée comme une religieuse, et ça, c'est complètement nouveau pour son temps. Sainte Catherine de Sienne, selon la vie écrite par son confesseur, qui est un dominicain, raconte qu'elle était fille des teinturiers. Les teinturiers, c'est évidemment un des commerces les plus florissants dans l'Italie de Sienne du XIVe siècle. Donc, il faut s'imaginer ce lieu grouillant de vie. C'est aussi un lieu de pouvoir, et ça aura du sens, on y reviendra tout à l'heure. Et voilà Catherine de Sienne qui est représentée comme allant visiter les pauvres et les malades. Et son confesseur, Antoine de Capoue, raconte comment, par exemple, un jour, elle a les mains dans la farine, elle est en train de pétrir du pain, et la Vierge Marie lui apparaît et lui demande de fabriquer des pains avec elle, bien sûr, pour les distribuer aux malades. Il reste de ce récit de vie que Sainte Catherine est devenue une des patronnes des malades, hein, en souvenir de ce récit. Et puis Catherine de Sienne, c'est aussi une importante figure politique dans son temps, puisqu'elle va prendre un rôle extrêmement important au moment du grand schisme d'Avignon, qui consomme la séparation de la chrétienté en deux. Hein. Il y a deux papes, un à Rome, un en Avignon. Or, pour un monde médiéval qui pense l'unité absolument partout, il y a un corps du Christ, il y a un corps politique, il y a un corps chrétien, eh bien, le fait qu'il y ait deux papes, c'est absolument inconcevable. Et Sainte Catherine de Sienne va exhorter les grands de ce monde par des lettres que l'on a conservées, où elle appelle le pape d'Avignon à retourner à Rome et à rentrer à Rome.
Donc elle prend parti pour elle, pour le pape de Rome.
Elle prend parti pour le pape de Rome. Et ses écrits manifestent eh bien, qu'elle prophétise, hein, c'est-à-dire qu'elle annonce des temps à venir qui seront difficiles si les grands de ce monde ne prennent pas garde à un peu plus de charité distribuée dans leur temps. Alors nous sommes bien évidemment dans un moment difficile et Catherine de Sienne symbolise un petit peu l'unité dans un monde divisé. Or, le propre de la sainteté, c'est de manifester aux contemporains que l'homme eh bien, continue malgré tout, dans les épreuves de sa vie, à s'unifier. L'art la représente très souvent un lys à la main, qui rappelle que eh bien, toute femme religieuse fait aussi dans son âme une expérience de l'Annonciation, à l'imitation de la Vierge Marie. Elle porte également parfois un cœur, symbole de l'échange de son cœur avec le Christ. Alors le Moyen-Âge montre très souvent cette scène dans l'art où on voit le Christ et la Sainte qui échangent leur cœur. Le monde contemporain va dénommer cette scène le mariage mystique. Mais c'est tout simplement l'échange des cœurs. Et dans l'art, on confond souvent la figure de Sainte Catherine de Sienne avec la figure de Sainte Catherine d'Alexandrie.
Alors, tout se complique par une troisième Catherine qui, elle aussi, est fêtée le 25 du 11, le 25 novembre. Mais est-ce une patronne des Catherinettes, celle-ci ? Non, la patronne des Catherinettes, c'est Catherine d'Alexandrie.
Non, c'est Catherine d'Alexandrie. Mais Catherine Labouré va finir sa vie de manière tout à fait anonyme. Personne, lorsqu'elle meurt en 1876, ne connaît le nom de Catherine Labouré. Par contre, ce que l'on connaît en 1876, c'est la médaille miraculeuse qui, ultérieurement, la rendra célèbre dans le monde entier. Son histoire est bien connue. Elle naît à Fesnes-les-Moutiers en Bourgogne, 8e des 10 enfants du fermier Pierre Labouré. Elle perd sa mère très tôt, à l'âge de 9 ans, et elle entre dans la congrégation des Filles de la Charité fondée par Saint Vincent de Paul. Et la suite de sa vie, c'est une vision où la Vierge lui apparaît, plus exactement un enfant vient la chercher en lui demandant de venir à la chapelle où la Sainte Vierge l'attend.
C'est croyant la chapelle de la rue du Bac.
C'est la chapelle
Paris,
de la rue du Bac,
très,
la chapelle de la médaille miraculeuse.
Oui,
à ce moment-là, Catherine se lève, suit l'enfant et arrivée à la chapelle, elle entend le froufrou d'une robe de soie, c'est le vêtement de la Vierge. La Vierge Marie est là resplendissante de beauté et lui parle pour lui confier une mission. Et il en résulte qu'elle demande que soit frappée à l'effigie de la Vision une médaille. Alors cette médaille, elle a été popularisée, tout le monde la connaît.
Énormément popularisée.
Énormément
popularisée. Tirée à des millions d'exemplaires.
Dans le cadre des missions de la fin du 19e siècle, elle va avoir un énorme succès cette médaille parce qu'elle va être diffusée dans le contexte de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et on voit cette médaille à deux faces qui représente d'une part la Vierge Marie étendant les mains pour répandre les grâces sur les fidèles et en lui demandant dans une inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et puis l'autre côté présente la croix avec l'initiale du M de Marie et en dessous le cœur de Jésus avec la couronne d'épines, symbole de la passion, et le cœur de Marie traversé par le glaive selon la prophétie de Siméon. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir combien tous ces symboles sont présents dans la vie des saints et combien ils nous racontent cette rencontre des contraires, cette union des opposés qui caractérise la sainteté, qui, une fois encore, eh bien, témoigne de la manière dont l'homme, qui est toujours divisé, divisé par des épreuves, divisé par toutes sortes de traversées, eh bien, il doit en permanence essayer d'aller vers l'unité intérieure, cette unité qui va donner du sens à sa vie et qui va lui permettre de devenir un exemple pour ses contemporains, à l'exemple du Christ.
Alors, si cette médaille miraculeuse a eu tant de succès, c'est peut-être qu'elle correspondait à, historiquement à un moment où les gens attendaient quelque chose pour être sauvés, ou à quelle période cette médaille a-t-elle eu tant de succès? Alors, vous l'avez dit, 1870.
Alors la médaille avant, miraculeuse après... va avoir un énorme succès à partir des années 1870. Elle va être popularisée par les missions, mais elle aura aussi un énorme succès dans le contexte, eh bien, des crises que traverse l'Europe à partir des années 1870 et qui vont l'acheminer vers un temps de guerre. Mais il en est pour la médaille miraculeuse comme de tout récit de vie, de miracle. Il s'agit toujours
de comprendre au-delà du phénomène
le sens qu'il peut avoir dans une période donnée.
Et je dois dire que les sœurs de la Charité qui tiennent la rue du Bac actuellement, et ça ne désemplit pas, il faut bien le dire, elles ne vendent pas cette médaille dans des matières très riches. C'est toujours une médaille très très modeste en métal qui est vendue une somme absolument dérisoire. Elles ne font pas d'argent sur cela. Il faut le dire aussi.
Il faut le dire parce que la médaille n'est pas un objet commercial.
Voilà.
C'est un objet qui est destiné à recevoir un sacrement, c'est-à-dire à réaliser ce qu'il signifie. Donc il n'y a pas de commerce, et c'est peut-être ça qui nous rend si beaux les objets religieux, dont il faut retrouver le sens. Dans ce monde saturé de commerce et d'argent, il ne s'agit pas d'en faire un objet commercial, c'est-à-dire un objet qui va établir un mode de relation entre les gens financiers, mais d'établir une forme de relation entre les êtres qui soit une forme de relation, disons, plus spirituelle.
Merci Sylvie de nous avoir éclairé sur les trois grandes Catherine. Alors il y en a d'autres, il y a une Catherine de Suède, je crois.
La fille de Brigitte.
La fille de Sainte Brigitte de Suède. On n'a pas dit non plus la couleur de la coiffe.
Verte et jaune.
Et jaune, voilà. Et puis maintenant, on va souhaiter une bonne Sainte Catherine à toutes les jeunes filles qui passent 25 ans. Bon, maintenant, on se marie quand même un peu plus tard. Donc, il n'y a pas de souci à se faire.
Et vive les Catherinettes.
Merci Sylvie Barnet. À bientôt.